Le sujet du jour porte sur les prises de conscience liées aux énergies. Vous savez que le deuxième postulat de l'absolu, le premier étant « il n'y a aucune gloire à être cela », le deuxième étant « l'évolution au mérite », et à partir de là, l'absolu émet des vagues de vie. Quand cette vague de vie arrive au règne humain, le don qui en résulte est l'individualité de conscience. À partir de là, la vie fait ses premiers pas pour répondre au quatrième postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. En d'autres termes, la vie qui va parcourir le règne humain va avoir à descendre dans les robes de la mer où se trouvent les jeunes vies pour aider ces vies à s'élever. On va prendre le tableau, si vous voulez bien, le diagramme 8. Alors vous avez le premier triangle et je vais vous inviter à mettre un point au centre du triangle où vous trouvez l'appellation monade qui vient du grec monas qui veut dire unique. La racine de vie, la monade liée au stade humain se trouve sur ce plan, le deuxième plan monadique ou le deuxième éther cosmique du plan physique cosmique. Je vous rappelle que pour porter au plus haut de notre champ de vision, mais cela se poursuit à l'infini, il y a 7 plans cosmiques. Au-delà, ce ne sont même plus les ténèbres lumineuses. Pour répondre à ce processus d'évolution au mérite, cette vie va aller à la rencontre des vies plus jeunes. Ce souffle d'énergie qui est projeté dans les robes de la mer, génère sur le plan mental, ou cinquième plan, génère son souffle, et cela génère une réponse des vies mineures, au sens où se crée un œuf, c'est-à-dire que ce fil de vie est enveloppé dans un œuf matière. À partir de là, cette unité dont la caractéristique est conscience. Précision, quand une vie plus élevée que les vies mineures qu'elle attire à elle, la rencontre de ces deux aspects. Pour la compréhension mentale, l'un représentant ce qu'on appelle le pôle esprit, l'autre le pôle matière, l'union de ces deux pôles constitués de vies, de hiérarchies, d'évolutions différentes, vous avez conscience. Notons qu'il n'y a pas de conscience en dehors du processus d'union des deux pôles esprit-matière. Pour le bon usage des termes, la vie plus grande est appelée esprit, les vies plus jeunes sont appelées matière. Et ce processus se répète à l'infini. Ce qui veut dire, pour parler autrement et en termes d'énergie, la vie plus grande est atome, les vies plus jeunes sont électrons, et l'atome est lui-même un électron d'une vie plus grande. Et ce, à l'infini. À partir de cette unité de conscience, vous avez ce qui est appelé communément l'âme. L'âme, c'est l'être permanent que la vie se crée à l'entrée du règne humain. Cet être permanent va traverser l'évolution humaine en se créant par cycles successifs des véhicules qui seront en fait les mondes de vie mineure qu'il aura en charge de faire évoluer. Nous touchons là à un aspect capital, à savoir que l'unité centrale prend en charge l'évolution de myriades de vies mineures qui constituent ces corps. Imaginez le bond en avant pour l'être humain lorsqu'en conscience collective, il appréhendra sa nouvelle vie en connaissance de cause. Qu'est-ce qui se passe à l'entrée du règne humain? Eh bien, l'unité centrale est prisonnière, engluée dans les vies mineures. Pour ce faire, l'être va effectuer une ronde en descendant au plus bas de la matière. Il y aura donc pénétration successives dans les robes de la mer, dans les différents plans, à savoir le mental concret, les quatre sous-plans du mental inférieur. Donc il va se créer l'unité mentale, puis il va descendre dans la partie appelée émotionnelle. J'ai dû évoquer avec vous l'excroissance de cette partie émotionnelle appelée astrale. L'astral est aujourd'hui tellement développé, agité, pollué, que c'est devenu une septième sphère. Et puis, nous avons le plan physique. Alors, je vais faire court, mais je vais être brutal à la compréhension. Quelle est la particularité de la vie qui est dans la quatrième hiérarchie créatrice, c'est-à-dire qui est dans la capacité d'individualité de conscience? Tout cela répond à un dessein. L'aventure ne se fait pas au hasard des choses. La vie comme telle a un dessein. Ce dessein, c'est que du plus haut des cieux, que nous allons cerner pour nous comme étant cette vie grandiose qui donne la vie à cet univers et bien évidemment entraîne dans sa manifestation des myriades d'échelles de vie qui eux-mêmes sont concernées par leur propre évolution. Mais le dessein de cette vie grandiose, c'est d'arriver au plus bas de sa manifestation et au contact de ce plan le plus bas, pouvoir dire en présence, moi, Dieu, je suis matière. Quand je vous dis ça, j'emploie des termes impropres à la réalité, mais nécessaire pour la compréhension mentale. Ça veut dire que le dessein, et notamment dans ce deuxième système solaire, où c'est le développement de l'aspect fils, donc de la conscience, cela veut dire que la vie au plus haut des cieux peut être présent parmi le plan le plus bas de la manifestation. Et donc le challenge que vont avoir les représentants en l'état, nous parlons d'un homme cosmique. Son représentant, c'est l'homme terrestre qui doit pouvoir assumer en conscience ce dessein divin. Je vous ai donné ce dessein pour que vous compreniez, en fait, le fil conducteur va amener les êtres humains à être en état de conscience divine, au sens où le but de l'être humain, c'est de marcher parmi les rênes de la nature en tant qu'être divin. Et bien évidemment, fontaine de vie. Et sur le diagramme 8, vous avez la structure énergétique de circulation des énergies. Ce qu'il faut que vous notiez dans un premier temps, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez appréhender la compréhension de tous ces circuits, vous pouvez noter dès à présent que la manifestation est une triplicité constituée d'appellations diverses, à savoir père, fils, mère, esprit, conscience, forme, monade, âme, personnalité. Cela désigne tel ou tel aspect de cette triple triplicité. Pour la compréhension technique, sachez que chaque corps est constitué d'un corps énergétique, constitué de centres, que chaque centre relie ce corps énergétique aux autres corps énergétiques, qu'il y a trois circuits propres à chaque aspect, que l'énergie de l'aspect mère passe par la ligne des atomes, que vous voyez sur le tableau, hein, atome atmique permanent, atome manasique permanent, atome bouddhique permanent, unité mentale, atome astral permanent, atome physique permanent. Ça concerne la manifestation du véhicule de la forme, et que c'est par cet atome que vous avez la mémoire du vécu. C'est la ligne mère, l'énergie de la mère. Quand vous prenez les pétales des centres, vous avez la ligne du fils. Simplement retenez ce que signifie le pétale. En fait, le fils est en permanence le canal entre les deux pôles. Pourquoi un pétale? Parce que vous avez une ligne qui vient de l'aspect père et une ligne qui monte de l'aspect mère. D'où le pétale. Le joyau au sein des centres et le canal du père. Nous allons progressivement, parce qu'il faut un certain temps pour que le pulse à cette dimension en chacun de nous se mette en place. Et par conséquent, on ne va pas plus loin pour laisser l'unité mentale classer tout ça et ranger tout ça. Nous allons partir sur les fondements de la manifestation. Vous avez la seule réalité, une à jamais inaccessible, ne pouvant être désignée par un mental, quel qu'il soit, fût-il le plus grand cosmique, comme étant à jamais inaccessible, c'est-à-dire l'absolu. Qu'est-ce que l'on peut toucher en compréhension à notre niveau de saisie? Reprenons l'absolu qui n'est pas un être, mais l'être-té. C'est l'espace abstrait absolu. C'est le mouvement abstrait absolu ou conscience absolue. L'absolu, répondant à ces postulats, émet des vagues de vie qui se trouvent projetées dans l'infini de l'existence, mais existent dehors. Comme je vous l'ai déjà dit, nous pouvons illustrer cela, l'absolu étant le silence qui est le père-mère de tous les sons. Que faut-il retenir, puisque ça fait des éons de cycles que toute la manifestation se déroule à travers tous les univers? Qu'en est-il de nos 7 univers? Nous avons affaire à une vie méga-cosmique qui est passée par le règne humain il y a des cycles innombrables. Et aujourd'hui, cette grande vie s'est manifestée, je dirais, à la poursuite de l'absolu dans lequel il a sa racine de vie. Et en cela, il entraîne toutes les hiérarchies de vie émises par l'absolu et chacune étant à un stade de progression dans l'évolution. Tout cela pour saisir que cette grande vie cosmique, pour poursuivre son évolution, avant de se réveiller à l'existence, et par conséquent de sortir de l'absolu, a conçu un dessin qui allait projeter les pas en avant de son évolution. Et bien évidemment, cette grande pensée cosmique, avant qu'elle n'existe en manifestation, était déjà porteuse de son aboutissement. Simplement, c'était une potentialité qui allait être latente, puis active, puis dynamique, puis accomplie. Eh bien, ce que j'évoque là se répète pour toutes les vies concernées par l'existence, chacune ayant un dessein à son niveau d'évolution. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en fait, la projection de la pensée va définir par attraction de myriades d'échelles de vie, dans l'espace abstrait absolu, un cercle, je dirais à une sphère infranchissable, qui va circonscrire la pensée projetée. Ce développement, c'est pour faire saisir qu'en fait, toute la manifestation est issue de pensées dont la puissance crée les mondes. Nous sommes nous-mêmes, depuis notre racine de vie, maintenus dans cette pensée monadique. La vie qui aborde la quatrième hiérarchie créatrice, quand elle va enclencher sa traversée du règne humain, elle va concevoir l'aventure, et comme il s'agit d'une réalisation au mérite, eh bien, dans cette projection originelle, le but est déjà accompli, mais latent dans sa manifestation. Et toute la traversée du règne humain, j'entends par là quatrième et cinquième règne, c'est d'amener la vie en question à devenir consciemment et activement ce qu'elle est, c'est-à-dire une fontaine de vie. Retenons qu'à ce stade hiérarchique des vies, la vie répond à un état naturel de la vie, c'est-à-dire le don. La vie est don, don de vie. Parce que cette vie au stade humain pense, elle crée. Et bien évidemment, selon les lois de l'absolu, qui sont pur équilibre absolu, le créateur est responsable de sa création. Et il devra rendre sa copie avec la note parfaite. Tout à l'heure a été évoqué l'aspect note. Eh bien, en fait, cette vie au stade humain apprend à devenir un musicien dans la sphère céleste. Et tant qu'il fera des fausses notes, il devra redescendre pour apprendre. Il n'y a qu'une seule loi dans les univers, qui rompt l'harmonie devra restaurer l'harmonie. Alors, l'aventure, eh bien, ça va être de redescendre dans ce chantier, dans cet grand espace de pensée qu'a généré une vie moins avancée sur le plan cosmique, qu'est le logos cosmique qui donne la vie à sept systèmes solaires, à ces logoi qui donnent la vie au système solaire, et à ces logoi planétaires qui donnent la vie au monde planétaire. Vous voyez là le fondement du terme logos, qui veut dire en fait verbe créateur. Alors, l'éveil du cinquième règne, eh bien, c'est de prendre conscience que nous sommes la vie une dans ces myriades de manifestations et que toute individualité de conscience enclenche la responsabilité de création. Nous sommes dans le deuxième système solaire et par conséquent, nous sommes dans un chantier occasion, qui veut dire que dans ce deuxième système solaire, les matériaux matières ne sont pas neufs. Ils résultent du premier système solaire. Alors, comment repérer ces vies mineures dont nous avons la charge? Quel est le repère fondamental? C'est le désir. Les vies mineures qui emprisonnent l'être manifestent leur volonté lunaire par le désir. Et vous voyez que sur le plan terrestre, cela va se traduire sous l'aspect terrestre par les appétits physiques qui concernent les satisfactions liées au plan physique. Les vies mineures du plan astral, cela va concerner les passions et les pulsions émotionnelles. Et sur le plan mental, concret, cela va se traduire par les formes pensées ordinaire, commune, où l'être, en tant que prisonnier, n'exerce pas de discernement ni de discrimination et suit le peloton. C'est regroupé sous l'appellation les moutons de Panurge. Dans le chemin de l'allée, le quatrième règne, l'être va donc, dans ce système solaire, subir, être la victime consentante de vie mineure. Et là, vous voyez que le contexte environnemental va être de grande influence. Et l'être, en fait, est devenu l'enfant prodigue. Au sens, ce n'est pas parce qu'il ignore la réalité des choses qu'elle ne s'applique pas. Il a moins de responsabilités que celui, évidemment, qui le fera en connaissance de cause. Mais il n'empêche que chaque fois qu'il pense, qu'il parle, il appelle à lui des vies mineures qui vont constituer des micro-mondes. Je fais la parenthèse pour vous dire que là, vous voyez comment en fait fonctionne la télépathie. Vous pensez à quelqu'un, ce que vous pensez lui est projeté. Après, il y a simplement la sensibilité, la clarté de réception, bien sûr de l'émission, mais vraiment tout est lié à l'aspect télépathie. Et cet aspect fonctionne bien sûr sur les éthers. C'est pour ça que la première observation, c'est que quand vous êtes fragile en critique sur quelqu'un, ne le désignez jamais par son prénom ni son nom. Je laisse la parenthèse pour vous faire saisir la différence entre l'analyse et la critique. Analyser, quand c'est fait d'une façon saine, avec une démarche positive pour cerner un sujet, un problème, une faiblesse, si c'est fait sainement et avec éventuellement autrui, à ce moment-là, la clarification que vous apportez dans cette analyse, c'est autant de projections de lumière sur l'être qui est encore aux prises avec cette difficulté. Faites attention. Tout ce que nous appréhendons, c'est pour acquérir la maîtrise relationnelle en tant qu'unité de vie dans un vaste ensemble. Tout ce vécu de comportement est donc mise en mémoire dans l'atome permanent physique, quand c'est de la parole, dans l'atome permanent émotionnel, quand il s'agit du monde des émotions, et dans l'unité mentale, quand il s'agit de forme pensée. C'est une bande mémoire que chacun voit se dérouler quand il remonte sur les plans subtils et en vitesse accélérée. Nos scientifiques créent encore des outils très archaïques. Il suffit d'un atome pour mettre tout en mémoire. Et bien évidemment, tout cela vient s'emboîter avec les vies antérieures, si bien que quand nous redevenons l'être que nous sommes, hein, l'unité de conscience, nous avons un champ de vision qui fait qu'une vie n'est qu'une journée de notre être. D'où l'importance de réussir sa vie. Et comme l'a dit un grand sage, mesure la richesse de ta vie aux épreuves que tu as traversées et non à la quiétude que tu as connue. En vous rappelant qu'une vie de quiétude, c'est bien souvent, elle vient parce que l'être termine un cycle d'épreuves, il a besoin de respirer, ou parce qu'il se prépare à entamer un cycle d'épreuves. Alors ne soyez pas là à dire « Ah, ils sont tranquilles, ça, tout va bien pour eux, tout ça ». Vous ne savez pas trop ce qui peut les attendre ou d'où ils viennent. Dans les prises de conscience, nous allons donc avoir l'enfant prodigue qui va, après avoir réfléchi, mais pourquoi m'arrive-t-il tout ça? Pourquoi suis-je dans ces difficultés et tout? Il va saisir qu'il ne doit plus dépendre de ses appétits physiques. Cela peut durer plusieurs vies pour aboutir au constat que, à laisser ses appétits, il connaît des problèmes de santé. Et nous avons là la première prise de conscience pour ne plus dépendre. Et au niveau des appellations, eh bien, il devient un aspirant à se discipliner. Je vous rappelle, le terme disciple, ce n'est pas le terme disciple de quelqu'un. Et c'est se discipliner aux lois de la vie, qui sont ses lois, puisque c'est les lois de l'absolu, et qu'il apprend à saisir. La deuxième prise de conscience qu'il va appréhender, c'est la non-dépendance de ses pulsions passionnelles, émotionnelles. Vous voyez qu'actuellement, l'humanité, dans sa grande majorité, est dans cette phase d'approche et de démêler. Et curieusement, vous voyez que le monde économique s'en sert sous l'appellation de susciter le désir par la publicité et compagnie. Ce qui veut dire qu'à terme, si vous voulez, la publicité devra être rénovée complètement parce qu'elle joue sur un domaine qui va disparaître. Quand l'être franchit la non-dépendance aux émotions et passions, et là, bien évidemment, ça se fait par le regard de son être, il devient un disciple en probation. Et quand il franchit la porte, c'est-à-dire qu'en fait, il a montré au fil de vie qu'il avait une certaine stabilité. À partir de là, il est accepté dans le cinquième règne. Il n'est plus dans le quatrième règne comme tel, il est accepté dans la hiérarchie des âmes. Il rentre dans le cinquième règne, il est accepté dans la hiérarchie des âmes, et quand il revient sur Terre, il est à la fois dans l'humanité, mais aussi il est une présence de la hiérarchie des âmes ou la hiérarchie de lumière dans l'humanité. Donc on va dire que là c'est l'humanité, là c'est la hiérarchie lumière, et puis ici c'est la maison du Père. À partir de là, il va s'avancer vers la troisième grande prise de conscience, qui est en fait la première, à savoir, j'ai à maîtriser ma personnalité, faite d'un corps physique, d'un corps émotionnel, d'un corps mental. Un maître est celui qui se maîtrise. Vous voyez comment ça peut déraper vite, hein, au point de vue compréhension des choses. Hein. Surtout qu'en Orient, ceux qui se positionnent comme maître aiment bien être regardés d'un peu plus haut. À chaque fois qu'il franchit une porte de compréhension, il progresse d'un cran vers la maîtrise des aspects inférieurs. Simplement, il faut savoir que dans le monde où nous sommes, les énergies du plan terrestre, du plan émotionnel et du plan mental, de l'unité mentale, sont des bocaux pollués. Ce qui veut dire que sur le mental concret, les quatre sous-plans ici, l'émotionnel, le plan terrestre, vous avez toute cette pollution qu'on appelle illusion sur le plan mental, mirage sur le plan émotionnel et maya sur le plan terrestre. Qu'est-ce que cela désigne? Eh bien, depuis que l'humanité s'est égarée, depuis que l'homme a été jeté dans les ténèbres, tout ce qui a résulté de sa séparativité et de sa responsivité aux êtres noirs qui ont pu venir perturber l'humanité dans son évolution, eh bien, vous avez les eaux troubles de l'illusion, dont la caractéristique principale, c'est la séparativité et l'orgueil. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'hydre à neuf têtes, hein, c'est-à-dire tout ce qui est l'orgueil, la haine, la méchanceté, et ainsi de suite. À partir de là, c'est le champ de bataille pour l'aide du cinquième règne. C'est-à-dire qu'il ne doit plus céder à la réactivité de ces vies mineures. Je vais évoquer quelque chose qui sera très profitable si vous le gardez en mémoire. Quand, mais c'est pas embêlé, hein, directement, quand vous êtes dans un contact, un échange, il faut savoir que vous allez avoir instinctivement mise en réponse de vos vies mineures. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, si vous voulez, que votre club de vie mineure y répond. Il est sollicité, claque, il répond. Et vous, vous avez l'attitude de dire « j'épouse, je nourris ». Mais ne soyez jamais étonné si, dans un premier temps et d'une façon très brève, vous avez une réponse qui ne convient pas, qui va être dérangeante, il n'en reste pas moins que c'est la réponse spontanée de vos vies mineures qui sont encore dans la maison. C'est pour comprendre bien le rôle subtil que nous devons avoir. Il ne faut pas en être étonné.
C'est ce qui correspondrait aux tentations chez les chrétiens?
Oui, c'est une façon d'éclairer les choses, mais je ne le fais pas sous l'aspect, si vous voulez, d'être mis en situation, d'être tenté ou autre. Non, c'est sur le fait que, tant que nos vies mineures occupent la maison, elles vont répondre. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, si vous voulez, la réalité, c'est que nous ne sommes qu'un canal, en tant que fils, entre le pôle mère et le pôle père. Et même si on ignore le fonctionnement, ça fonctionne. Ce qui veut dire que le pôle mère, matière, hein, la matière comme telle, elle est éternelle. Son énergie, qui est bien sûr le pôle opposé de la grande vie dans lequel on est. Son énergie doit fournir l'essence au pôle père. Et c'est comme ça qu'il y a la conscience. Simplement, ça grouille. On a toutes nos vies mineures qui peuvent effectivement encore filtrer, polluer, colorer. Ce qui veut dire que le processus de conscience fonctionne entre les deux. C'est obligé. Pour qu'il y ait conscience, il faut que le pôle mère, donc vie mineure, fournisse l'essence, donc la lumière, enfin plutôt l'essence à la lumière. Est-ce que vous voyez la mécanique de la chose? Donc ne pas être étonné. Alors je fais quand même une autre parenthèse. Ne perdez pas de vue que quand un être devient un centre de conscience et de rayonnement, eh bien il y a un processus environnemental qui va fonctionner. C'est-à-dire que si vous êtes surpris d'avoir des pensées, eh bien en fait c'est simplement des lutins qui ont été semés dans l'environnement et que vous récupérez et qui viennent, comme on dit, à la station d'épuration. Voilà. Alors soyez pas choqués, parce que je sais que beaucoup d'êtres à un moment donné se disent « Mais attends, là, ces pensées-là, d'où ça sort ?» Hein? Voilà, sachez-le. Mais comprenez bien comment se déroule le processus de conscience.
C'est-à-dire que ces pensées remontent de l'intérieur, à l'intérieur de nous, ou viennent de l'extérieur?
Oui, c'est votre... Je suis obligé d'imager pour que ça ne soit pas, on ne soit pas dans l'abstrait. Hein. Donc j'aime bien parler, si vous voulez, de club de lutins. Le club de lutins, bah, c'est tous les étudiants de vie mineure que vous avez accumulés. D'accord, le problème, c'est que, si vous voulez, dans la traversée du quatrième règne, on va dire que qu'est-ce que les gens n'ont pas rassemblé comme copains d'aventure? Ils occupent la maison. Eh bien, qu'est-ce que l'être va faire dans sa démarche de se discipliner? Il va sélectionner les vies mineures représentatives de son stade d'évolution.
C'est la question qu'il avait posée.
Ben oui, voilà. Voilà. Voilà, c'est un schéma, on est dans un schéma technique. Voilà. Alors, le problème, c'est que, comme c'est des vies qui nous collent à nos comportements, vous voyez bien qu'elles ne vont pas lâcher prise comme ça. Et la meilleure preuve, prenez par exemple quelqu'un qui est dépendant de l'alcool. Bon, vous voyez tout de suite ce que ça va être. Quelqu'un qui est dépendant du tabac, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Donc ça ne se fait pas facilement. Parce qu'il les a nourris, il les a dorlotés. Mais tout ça est illusion, tout ça est mirage. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre notre racine de vie et notre soi de conscience, l'âme, nous sommes dans les robes qui sont notre état d'être de lumière. Ce qui veut dire que dans notre réalité de vie, nos qualités s'appellent le vrai, le beau, le bien, le pur. Mais nous nous sommes sacrifiés pour aller dans les vies mineures. Simplement, bien, l'enfant prodigue s'est planté au sens où dans son aventure de traversée, il a embourbé des vies mineures. Quand l'être arrive à la troisième porte, qui est en fait la première, si vous voulez, puisque c'est la première qui concerne véritablement la maîtrise, il va avoir comme champ de conscience, je dois pratiquer de justes relations. Je ne fais pas à autrui ce que je n'aimerais pas qu'autrui me fasse. Si on regarde le message des guides venus sensibiliser l'humanité, l'instructeur qui était en place il y a 2500 ans, Siddhartha Gautama Buddha, dit à l'humanité, cessez le désir, la cause de la souffrance. Maitreya, qui lui a succédé, dit il y a 2000 ans, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire pratiquez de justes relations. L'état de conscience de notre être intérieur, qui est un être de lumière, potentiel, c'est-à-dire potentiellement accompli, attendant de l'être en réalité de réalisation de chantier. Quand nous sommes à la troisième initiation, l'être en conscience peut dire « je me maîtrise ». C'est-à-dire, je ne subis pas le désir de mes vies mineures, qui sont mes étudiants, et par conséquent, je ne me laisse plus leurrer. Vous avez à ce stade la fusion entre la personnalité et l'âme, ce qui veut dire que votre être intérieur est aux commandes de la personnalité. Il ne faut pas compliquer ce qui est simple, d'accord ? Même si c'est compliqué d'être simple. À partir de cette troisième porte, la première, vous avez là le lotus qui est pleinement épanoui. Cela veut dire que les énergies qui viennent du plan manasique, dont la qualité de conscience est l'intelligence du cœur. Intelligence du cœur, c'est-à-dire je pratique de justes relations et je ne fais pas à autrui ce que je n'aimerais pas qu'autrui me fasse. Cette énergie descend par les lignes des pétales de la connaissance. Quand il franchit la porte, ça veut dire, si vous voulez, qu'il est devenu stable en comportement. Il s'avance vers une autre dimension de cœur, à savoir l'esprit christique. La fameuse invitation à tendre l'autrui. Je fais à autrui ce que j'aimerais qu'autrui me fasse. Là, il est devenu un être épanoui en spiritualité. Intelligence du cœur et amour concernent l'espace de spiritualité. Et les pétales d'amour, si vous voulez, la deuxième rangée, va fonctionner. Mais comprenons toujours qu'il va falloir, si vous voulez, que l'essence venant du pôle matière soit fournie. Et par conséquent, tout le problème et les problèmes liés aux disciples, on va le voir, viennent de la mauvaise gestion. C'est pour ça que nous sommes dans un développement théorique, mais dans la pratique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ce qui veut dire que quand on fournit de l'essence qui est impure, bien, il y aura épuration et par conséquent des maladies spécifiques au cinquième règne. Les uns les autres, vous pouvez situer votre champ de réalisation, à savoir, est-ce que dans mon comportement, j'aide les autres à devenir meilleurs et par conséquent, je tends l'autre joue, même s'ils m'ont heurté, percuté, dérangé. À la troisième, l'âme a un lien avec sa racine de vie. Cette phase de tendre l'autre joue s'accompagne aussi de la traversée du désert, c'est-à-dire c'est un cycle de dépouillement et de renoncement. Il faut montrer que les vies mineures n'ont plus emprise, ce qui veut dire que vous rentrez dans l'appellation « le Père est un feu dévorant ». Les êtres sont mis sur le grill. Ils peuvent recevoir beaucoup et se voir tout perdre, notamment du matériel, pour voir, comme on dit, s'ils en dépendent ou pas. Dans la phase suivante, qui est la cinquième porte, ils appréhendent l'énergie du premier aspect lié à la volonté et non plus à l'amour. Alors, quand ils sont rentrés à la troisième porte, la troisième initiation, ils commencent à être rattachés à la maison du Père, parce qu'ils vont progressivement appréhender l'intention du Créateur. En d'autres termes, quel est le dessein planétaire, lequel est compris dans un dessin solaire, dans un dessin cosmique. Il faut bien faire la distinction entre l'énergie d'amour qui en fait amène l'être à réaliser qu'il est une unité dans un vaste ensemble et que derrière cette lumière de compréhension, il y a l'autre lumière, froide et claire, qui est la lumière du Père. Pour vous donner des repères, la hiérarchie de lumière des âmes amène l'être à épanouir sa conscience. Et par conséquent, dans ce schéma d'être une unité dans un vaste ensemble, il apprend à étendre sa conscience jusqu'à l'universalité. Ce qui veut dire que l'influence de l'énergie d'amour, dont la caractéristique fondamentale c'est attraction et répulsion, cette énergie d'amour, vous comprenez bien que c'est l'énergie du Fils et par conséquent c'est lié à la lumière, donc au champ de conscience. Et l'aboutissement pour atteindre l'universalité de conscience, c'est d'intégrer l'unicité de la vie. L'unicité, c'est-à-dire avoir sa place harmonieuse dans la musique céleste. Maintenant, ayant saisi sa place dans le vaste ensemble de la manifestation, ayant intégré des notions propres à cette unité de conscience, c'est-à-dire l'humilité au sens supérieur du terme. L'humilité au sens supérieur, c'est le respect de l'échelle d'évolution des vies. C'est une autre dimension de l'humilité. En d'autres termes, c'est l'ancienneté de réalisation. Il lui faut maintenant appréhender l'autre réalité, et là, cela se réalise par l'identification avec le dessein de celui qui donne la vie à la planète, appelé le Père. Ce qui va l'amener à réaliser l'unité de toute vie avec la vie une. Il n'y a qu'une seule vie, mais par le postulat de l'évolution au mérite, toute parcelle d'absolu, excusez le paradoxe, doit répondre aux principes mêmes qui sont les siens. À partir de là, de la troisième porte, donc de la troisième initiation, vous vous souvenez, c'est « je pense donc je suis », la personnalité réalisée, puis l'enfant prodigue dit « ah je suis cela », ce qui permet de découvrir que en fait, il y a des lois qu'il n'a pas respectées alors qu'elles existent, et par conséquent, il en a été pénalisé. Et dans sa progression de champ de conscience, il va intégrer la notion que j'ai à devenir ce que je suis. Et ça, si vous voulez, c'est à la troisième porte, la troisième initiation, où là, en fil de conscience, il rejoint sa racine de vie, le Père, et bien évidemment, il réalise qu'il a à devenir cela. Donc j'ai à devenir ce que je suis. Pour arriver à l'identification avec le Père, mais auparavant, il lui faut appréhender les énergies qui concernent, caractérisent cette volonté. C'est le plan atmique. C'est la cinquième initiation. Ça veut dire, si vous voulez, que dans sa nature de comportement, il fait tout avec intelligence du cœur, juste relation, il fait tout pour aider les autres à devenir meilleurs, ce qui veut dire qu'un être d'amour saura être exigeant, sévère, dur et au silence. Pourquoi au silence ? Parce que quand il aura, avec un pierre de touche, essayé de solliciter réponse de l'autre et qu'il n'y a pas de réaction, il n'a plus qu'à attendre, donc il se met au silence. Et en cela, il aura à traverser une marche très savonneuse pour l'humanité qui s'appelle l'affectivité. L'affectivité, c'est ce besoin d'aimer et d'être aimé. C'est pas de l'amour. Le Père, en son temps, a connu cette difficulté, au sens où, avec à la fois tout le respect, bien évidemment, mais aussi toute la réserve, parce que à ce stade d'évolution, les fautes apparentes peuvent être simplement que des tentatives. Il n'en reste pas moins que, à vouloir faire avancer trop vite des vies mineures, il a ouvert la boîte de Pandore. Et je vous rappelle que le Bouddha lui-même eut la même, une erreur semblable, au sens où, après avoir retrouvé l'enseignement des Brahmanes, et bien sûr s'être réveillé, il leur a dit, mais attendez, là, vous ne pouvez pas comme ça séparer, c'est-à-dire retenir cette connaissance, cet enseignement, alors que ça appartient à toute l'humanité. Et bien évidemment, les Brahmanes ont réagi et ils ont verrouillé encore plus la chose. Et c'est là où Siddhartha a dit, eh bien, je m'aperçois que mon intention de bien faire n'a pas eu le résultat escompté. Et je ne quitterai pas cette terre tant que je n'aurai pas ramené ces êtres que j'égare dans la bonne direction que je voulais les inviter à aller. Vous voyez, comme quoi la dimension d'amour peut aller très haut. Bon, il n'en reste pas moins que l'affectivité, c'est le piège des disciples. Et que cette affectivité doit être évacuée dans les deux portes qui concernent la quatrième et la cinquième initiation. C'est-à-dire de passer de l'unicité à l'unité. Le Père aujourd'hui est en indifférence divine. Cela veut dire qu'il ne cède en rien aux vies mineures qui sont les hommes. Et l'affectivité est quelque chose de terrible. Terrible. Je vais développer un peu pour vous mesuriez ce que ça peut entraîner. Quelle est la faute des apôtres ? À part Jean et les femmes, tous les autres sont partis comme une volée de moineaux. Pourquoi ? C'est insoutenable, on nous torture, on nous bat, on nous flagelle, notre frère bien-aimé, c'est épouvantable. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu l'affectivité, ils étaient initiés au secret du dessein de Maitreya. C'était « Détruisez mon corps, dans 3 jours, je serai parmi vous en corps de lumière. » Je vous donne un autre scénario. Judas est chargé par Jésus d'assumer la mise à mort. Il faut un sacré amour pour faire le dépassement. Ce qu'il assume. À partir de là, nous nous trouvons devant l'illusion de la mort. On détruit le corps. Et vous avez le scénario des apôtres et des êtres tout autour qui sont là, impassibles. Oh ouais, bah nous, ouais, non, c'est rien, on sait, hein, tout ça, on sait ce qui va se passer, on connaît le déroulement, hein, c'est prévu, hein, c'est écrit, on le sait. Vous vous imaginez le message au monde ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Maitreya serait réapparu en corps de lumière, mais dans une autre manifestation, une autre dimension que la seule qu'il a pu faire. Le message du Christ, c'était l'existence du corps énergétique, du corps de lumière, et bien évidemment, de l'illusion d'une seule vie. Or, l'affectivité a floué la réponse publique des disciples. Judas lui-même ne l'a pas supporté, alors qu'en fait, il avait fait quelque chose, on va dire, conforme à ce qui était attendu. Parce qu'en fait, il a le mérite de l'avoir quand même déclenché. Hein. Nous arrivons ici, lorsque l'être intègre l'énergie de volonté, il rentre dans les champs de conscience divins. L'énergie de volonté est de nature divine, l'énergie d'amour est de nature spirituelle. Quand il est dans cet espace de conscience, hein, parce que tout ça c'est des espaces de conscience, il est à appréhender l'énergie de volonté du Père. Et comme le Père est la vie en lui, eh bien vous avez identification progressive et unité. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, le Christ vous dit, celui qui me voit, voit le Père. Parce que le champ de conscience que je manifeste est intégré dans la conscience du Père. Quand l'être va quitter le règne humain et franchir la sixième initiation, dans cet espace entre les deux, son champ de conscience est l'autre, est une partie de moi-même et vice-versa. Mais ces champs de conscience, comprenons-le, doivent être instinctifs, c'est-à-dire de la nature spontanée de l'être. Ça doit devenir un instinct. Une conscience est acquise et maîtrisée quand elle est devenue instinctive. Alors, bien évidemment, vous voyez, de la théorie à la mise en pratique, vous voyez, marche à franchir. Oui, surtout la savonneuse de l'affectivité. Ici, vous avez l'être qui, en fait, est sorti du règne humain, du cinquième règne comme tel. Alors, à partir de la troisième, mais jusque la cinquième, l'être va apprendre à, quand il vient sur Terre, à être dans l'humanité en tant que fontaine de lumière et, ultérieurement, fontaine de vie. Partout où il passe, il rayonne les énergies de la maison du Père. Cela peut avoir un effet aussi bien positif que destructeur. L'énergie est neutre. Quel est le processus? Eh bien, le processus, si vous voulez, c'est que des êtres viennent dans l'humanité, appartiennent à la hiérarchie de lumière et font partie de la maison du Père parce qu'ils sont en éveil et réalisation de conscience du Père. Identification avec les gens de mon cerveau. Alors, la maison du Père, c'est quoi? Ce sont des champs de conscience. L'ashram du Père, c'est les champs de conscience du Père, qui sont aussi avec différentes strates. On n'y va pas comme ça. Comme nous sommes dans la partie basse de la pensée cosmique, eh bien, tous les plans ne sont que des espaces de conscience. Par le processus de la triple triplicité, la manifestation prend forme au sein même des espaces de conscience. Vous le comprenez dans la mesure où nous générons des micro-mondes. Bon, ça va être des particules, mais c'est un souffle d'énergie qui entraîne des myriades de micro-mondes. Eh bien, dans le processus de manifestation, tout ça à un moment donné, comme on dit, c'est le labor tel que nous voyons en fait le monde manifesté. Simplement, comprenons que il y a ce qu'on appelle le monde avec forme, qui est la partie corps dense planétaire, et sans forme, qui est la partie éthérique. Question, remarque?
Moi, j'aimerais que vous précisiez, dans cette polarité de terre et ciel, lorsqu'on est en chemin, puisque ce sont plus les désirs qui font l'appel du Père, de l'énergie pure, qu'est-ce que c'est alors qui fait cette polarité?
Alors, je vais le développer d'une façon plus générale après. Mais, désir attire des vies mineures qui intègrent vos corps de manifestation et vous disent « Tu m'as appelé, tu me prends en charge ». L'énergie de volonté n'attire pas à elle des vies mineures. À partir de là, si vous voulez, le processus n'est plus accumulatif, il est de rareté. Parce que si vous attirez des vies mineures, vous colorez votre monde de manifestation. Donc vous avez toujours l'appel du désir de vous manifester. Alors que lorsque l'être en maîtrise, en fait, il est non plus en manifestation, il est en abstraction. Il se retire, en fait. Il est en train de se libérer de son chantier. Comme il a élevé les vies mineures, son contrat est rempli.
Donc ça devient comme un instinct de rayonnement.
Oui, bien sûr, puisqu'en fait, rayonner, c'est être lumière, c'est-à-dire ne pas utiliser des forces polluées, des forces lourdes, hein, mais toujours porter la lumière dans son expression. Puis, quand vous utilisez les énergies qui viennent d'en haut, eh bien, en fait, vous les faites descendre sur Terre, d'une part, mais elles n'attirent pas des vies mineures qui ont besoin, puisqu'en fait, vous vous êtes libéré de ces vies mineures. Vous n'êtes que pure expression de lumière. Si vous voulez, dans la manifestation, en fait, la couleur désigne la réponse de l'aspect matière. Et la lumière, elle doit traverser l'espace de manifestation, les corps de manifestation, sans se colorer, sans s'obscurcir. C'est pour ça, par exemple, voyez-vous que assumer l'instruction, il y a un risque. C'est de colorer ce que l'on transmet. Parce que de coloration en coloration, à la sorte, ça peut avoir basculé. Et là, vous comprenez pourquoi les messages du grand guide il y a 2000 ans ont été dénaturés de leur substance lumière.
Ça veut dire peut-être que dans le désir, il y a comme s'il y avait une attente quelque part. Donc ça, ce qu'on désire arrive. Quoi. Alors que dans
absolument.
La volonté, il n'y a pas d'attente, il y a l'action, il y a le...
Alors, en fait, si vous voulez, la volonté, au sens divin du terme, c'est la volonté du bien de l'ensemble. Pour que vous compreniez la caractéristique fondamentale de la volonté divine, c'est la volonté du bien de l'ensemble. Alors, bien évidemment, nous sommes dans le système solaire qui est le nôtre, dont l'énergie caractérisée est l'amour. Mais il faut savoir que chaque rayon, chaque énergie, a ses trois aspects. Ce qui veut dire que le deuxième rayon d'amour-sagesse a son premier aspect, dont la caractéristique est la volonté de bien de l'ensemble. Bien évidemment, ça s'appuie sur l'énergie d'amour. Alors,
pour notre Terre, eh bien, l'énergie de Manas, si vous voulez, c'est l'intelligence du cœur. L'énergie christique, c'est le beau, dont l'épanouissement traduit par l'énergie d'élégance. À partir de tout ça, pour assurer la maîtrise de toute cette gestion, entre la spontanéité des vies mineures à nous donner l'essence caractérisée habituelle, donc colorée, et l'arbitrage, et d'aller puiser au fur et à mesure une énergie de haute nature, vous avez 12 secondes. Votre respiration énergétique est de 12 secondes, c'est-à-dire que, comprenons bien la différence entre un être du quatrième règne et un être du cinquième qui s'assume. Un être du quatrième, il fonctionne sur ces deux plans et demi, c'est-à-dire sur 18 fréquences d'énergie. Et remarque ici, tant qu'il est que sur ces fréquences, ça ne sert à rien de lui parler de ce domaine. Il ne peut pas, il n'a pas les lecteurs. Voyez-vous, là encore, quand je dis, c'est Maitreya qui vous dit il y a 2000 ans, donnez pas vos perles pour tout. C'est un peu brutal, mais ça veut dire un porc, lui, vous lui donnez des perles, il s'en fout, lui ce qu'il veut c'est des pommes de terre. Et en fait c'est ça. Par contre, vous avez trois phases. Vous avez la phase où l'être est en fait dépendant de toutes ces vies mineures qui grouillent. Vous avez ensuite la phase de transmutation qui concerne la première et la deuxième initiation, au sens où l'être apprend à ne plus dépendre de ses vies mineures, il ne cède plus. L'alcool, suffit qu'il y ait la bouteille et puis je suis bon. Non, maintenant, j'apprends à ne pas me lâcher, me laisser aller, même si, de temps en temps, comme on dit, j'y replonge. Bon, et la libération, eh bien, c'est la phase où l'être apprend la maîtrise, et alors là, il rentre, si vous voulez, dans un processus de transformation. C'est-à-dire qu'au lieu de céder à mes vies mineures, je ne les nourris pas. Alors les nourrir, ben, c'est mon voisin me traite de sale con, mes vies mineures m'envoient l'écho, sale con. Non, pendant 12 secondes, je dis non. Quelques vies mineures qui disent, ça ne donne rien pour attendre. Transformation, comment puis-je faire par un signe, par un geste, par une parole pour l'amener à ne plus se comporter comme tel. Et on a 12 secondes. Alors à partir de là, bah si vous voulez, c'est « je n'use que du vrai ». Et comment l'être humain essaye de manipuler les situations à son avantage, essaye de dérober à la réalité, agir avec élégance et le bien de l'ensemble. Hein, aujourd'hui, vous voyez comment certains lobbies dérobent au bien de l'ensemble. Hein, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous parler de ce qui se passe dans la finance, dans la politique et dans les matières premières. Voilà. Alors les 12 secondes, vous êtes en transformation quand vous dites non, moi je colore ce que je vais être. Hein. Alors essayons de comprendre. Nous sommes sur le plan terrestre. Bien. Donc là où la vie peut dire je suis au contact de la matière. Notre respiration énergétique, notre corps énergétique, comme notre corps dense, on respire l'air avec la pollution où on est. Le corps énergétique, il est dans le bocal. Dans le bocal où les humains font pipi en permanence. Et on y va gaiement, du genre, on en remet une louche pour le voisin. Là, non, vous dites, j'ai 12 secondes. Pendant mes 12 secondes, j'aspire de l'énergie et je fais descendre de la substance lumière qui va irradier le bocal. Ce qui veut dire que quand un être est en personnalité, sa puissance est de 10. Quand il est en conscience d'âme, d'être, sa puissance est de 100. Quand il est en conscience père, sa puissance est 1000, 100 fois supérieure à un être humain. Et c'est automatique. Parce que l'énergie qu'il puise, qu'il fait descendre, si vous voulez, est d'une fréquence. Quand vous pratiquez le vrai, le beau, le bien, le pur, vous utilisez l'énergie qui baigne l'âme de l'homme céleste, son corps mental, son corps émotionnel. Parce que notre racine de vie est dans l'âme de l'homme céleste. Le bien de l'ensemble, c'est l'énergie qualitative du mental de l'homme céleste. Le beau, c'est l'énergie qualitative du corps émotionnel de l'homme céleste. Précision, remarque.
Une petite question. Tout à l'heure, Isabelle parlait des deux pôles et je dirais de l'attraction des vies mineures. Ceci étant, lorsqu'un être est du cinquième règne, on évoquait tout à l'heure effectivement le fait de rayonner. Cette rayonnance va quand même agir sur le phénomène d'attraction de ces vies mineures, dans la mesure où elles vont suivre notre développement et notre évolution énergétique en prise de conscience.
Les vies mineures, ce sont des vagues de vie émises beaucoup plus récemment par la source de vie. Il s'avère qu'elles sont lunaires, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas d'individualité de conscience. Et elles subissent les outrages et pollutions des vies conscientes. Ce qui veut dire que dans ce deuxième système solaire, les vies conscientes, les hommes, ont souillé la mer. Et que un des principes de l'absolu, celui qui a rompu l'harmonie, devra rétablir l'harmonie. Celui qui a souillé devra assumer le ménage. C'est les écuries d'Augias, d'Hercule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne avec une précision mathématique-technique. Nul n'y échappe. Il ne faut pas dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, il faut dire qu'est-ce que j'ai fait en son temps pour que je récolte tout ça. Quand nous quittons notre corps physique et notre corps émotionnel et notre corps mental, nous libérons ces vies mineures. Quand nous revenons, nous rejouons le scénario. Alors hop, allez, on repart. Et on reprend le chantier où on l'a laissé. Le problème, c'est que nous avons tous notre racine de vie dans l'absolu, et par conséquent, nous sommes tous égaux en potentialité. Et nous sommes maîtres de notre destin. Personne ne peut dire, moi je suis une victime innocente de la vie. Ça, c'est un classique du genre. Notamment quand il y a des retours sévères, comme par exemple, qui a violé sera violé, et que vous avez des êtres autour qui se braquent. Quand vous avez un être qui perd un enfant, alors qu'il essayait de tout bien faire, j'en dis bien pensant et tout, et qui invective le père en disant « J'ai voulu toujours te servir et tu me fais ça, c'est inadmissible !» Puis voilà, ben, n'allez pas chercher plus loin les problèmes liés au cerveau. La sclérose en plaques, et voilà. Ça, c'est un retour pour le cinquième règne, parce qu'il a acquis la team conviction du père. La présentation vous a permis de garder le fil conducteur ? Ouais, ça va ? Vous le dites autrement, hein, parce que comme nous sommes un, mais dans nos différences... Hein.
Moi, je pense qu'on est obligé d'adapter son discours, certainement, parce que la personne qui dit qu'elle est victime, elle est sincère. Dans un premier temps, elle pense qu'elle est victime. C'est au fur et à mesure que sa conscience va monter, qu'elle va avoir une autre lecture. En fait, la lecture de sa vie, elle change constamment. Il y a comme un recyclage par la conscience de sa vie.
Alors, pourquoi le Père a-t-il créé cette planète de souffrance ? Pourquoi ? Il y a un vieil adage qui dit que la souffrance apporte sa juste récompense de lumière et d'amour. Parce qu'en fait, un, ce qui souffre, ce n'est pas notre être, c'est nos vies mineures. Ce qui souffre, c'est nos vies mineures qui sont abandonnées. Et l'épreuve de la souffrance est libératrice. Maintenant, il faut savoir qu'en tant qu'être, notre être est notre agent karmique. C'est lui qui impose les épreuves. Un seigneur de karma, c'est un choix, si vous voulez, dans l'évolution cosmique. Pour être qualifié en tant que seigneur de karma, il faut avoir été qualifié en tant que seigneur d'amour et de lumière. C'est un passage obligé. Ce qui veut dire que tous les seigneurs karmiques sont en
l'épanouissement de la réalité de l'amour. Mais un seigneur karma ne va pas punir. Il va dresser les épreuves libératrices pour que l'être arrive à appréhender les faiblesses de son passé en maîtrise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épreuve karmique vient pour mettre fin à la dégringolade dans les ténèbres. C'est donc un acte d'amour, parce que il vaut mieux arrêter la plaisanterie plutôt que de le retrouver, comme on dit, enfoui dans les ténèbres profondes. Bon. Et ensuite, ces épreuves sont libératrices, puisqu'elles portent sur des domaines de faiblesse qui, pour l'instant, ne sont pas encore maîtrisés. Et vous voyez bien qu'elles ne sont pas négatives, mais au contraire, relèvent de l'amour. Alors, bien évidemment, projetons le profil de notre père. Pour nous, dans son évolution, il est un absolu de beauté, de pureté, de perfection et d'amour. Ce qui veut dire que nous devons positionner cette réalité et ne pas inverser la lunette, à savoir que si les choses ne se déroulent pas comme on l'attend, c'est parce que là-haut ils font erreur. Ben non. Et que nous nous sommes bercés de douces illusions ou de mirages.
Je crois que Baudelaire, qui l'avait bien résumé, qui disait, je crois, « Soyez béni mon Dieu qui donnait la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. »
Eh ben, mais c'était bien saisi.
Pour un enfant. Et justement, pour arriver à lui faire comprendre, c'est vrai qu'ils sont jeunes et ils ne doivent pas comprendre ce qui leur arrive. Alors,
un enfant est un être du même âge dans cette humanité qui a choisi ce milieu familial comme présentant un contexte favorable à son dépassement, qui compte sur les adultes, voilà, mais c'est toujours simplement qu'une vie dans notre évolution avec simplement un nouveau véhicule. Donc à nous d'être perspicaces. Ce que l'être attend, c'est que on le soutienne, on le tuteurise pour qu'il arrive à... Voilà.